Vous écoutez RTL.
Les héritiers de Syntex et les autres ont dû échanger des petits émojis à tête de mort. Mais d'où viennent ces petits dessins qui garnissent nos messages téléphoniques? Comment sont-ils choisis? On va voir tout ça, c'est presque une histoire d'espionnage. On en parle avec Antoine Lanuzel, qui est rédacteur en chef du magazine Oui Demain et qui fait une enquête très fouillée sur le sujet. Bonjour Antoine.
Bonjour, bienvenue.
Merci
pour l'invitation.
Combien il y a d'émojis?
Alors aujourd'hui, officiellement, il y en a autour de 3000. C'est un nombre qui augmente de manière exponentielle parce qu'on va sans doute raconter là un petit peu leur histoire. Mmh. Et on a démarré avec 174 petits symboles il y a quelques années.
Qu'est-ce que ça veut dire, tiens, emoji?
Alors c'est un mot qui est un mot japonais. Un mot, l'image, c'est « e ». Et le caractère ou le mot, c'est moji. Donc ça donne un terme qui veut dire à peu près mot imagé.
Et il y a déjà des trucs qui ont été traduits en emoji, c'est ça
Des trucs
ouais.
La Bible.
Alors
des...
Et pas que.
Comme
et
vous
pas
y
que...
allez, Anaïs.
Il y a des gens qui se sont amusés à traduire les paroles d'un clip de Beyoncé. Oui. La Bible, il y a Moby Dick qui a été traduit sur Internet. Alors il faut savoir pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que c'est vraiment une traduction? Non, c'est pas une traduction. Parce que les emojis sont un langage qui est parcellaire, ça permet pas de tout dire, ça permet pas de dire, de donner des indications temporelles, des adverbes, des liens entre les phrases, etc. Donc c'est assez, comment dire,
basique.
Et quand on regarde, c'est quand même assez intéressant parce que le texte de Moby Dick, par exemple, est précédé de l'équivalent en emoji.
D'accord, dans quelques instants. Mais qui a inventé les emojis et qui les valide? Et ben vous allez voir, c'est presque un James Bond. À tout de suite, les curieux.
Depuis quand ça existe les emojis?
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Shigeta Kakurita est né le 9 mai 1972 à Gifu, au Japon. Il fait des études d'économie et puis il est embauché par la société Docomo, le plus gros opérateur de téléphone portable au Japon.
Docomo.
Bonjour, je m'appelle Shigeta Kakurita et c'est moi qui ai inventé les emojis.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
J'avoue, j'en mets partout des emojis, ces petits dessins qui permettent d'illustrer nos textos et nos conversations sur les réseaux sociaux. Et puis un jour, je me suis dit, mais qui les a créés, bon sang de bonsoir? Qui les choisit? Ça tombe bien, le magazine Oui Demain répond à cette question en partenariat avec RTL. Antoine Lanuzel, on a entendu son nom et sa voix, pardon pour la prononciation, Shigetaka Kurita, c'est donc l'inventeur des emojis. Pourquoi? Dans quelle circonstances invente-t-il ces petits dessins?
Alors, on est à la toute fin des années 90 et ce Shigetaka Kurita travaille pour une boîte de télécommunications qui fait notamment des beepers. C'est un peu l'ancêtre du smartphone, voilà, les échanges électroniques passés par là. Mmh. Et il y a à l'époque une concurrence féroce et il se dit que pour se dégager de la concurrence et notamment pour essayer de séduire les jeunes, ils vont créer des petits symboles qui vont pouvoir aller à l'intérieur de ces messageries.
Combien il en crée? Ça démarque comment? Petitement, quelques dizaines? Combien il en crée de pictos?
Alors au départ, il en crée 174. Mmh. On peut les trouver sur Internet, c'est assez intéressant. Je les ai là.
Ah oui.
C'est des choses qui sont... Alors, ça paraît préhistorique par rapport à la façon dont on conçoit le numérique aujourd'hui.
Si on va le photographier, on va le mettre sur les réseaux.
Et si vous nous suivez sur RTL.fr, je vous les montre. Évidemment, vous ne verrez pas grand-chose de loin, mais effectivement, c'est un peu basique, comme dirait l'autre.
Voilà, et pour résumer ce qu'on voit là, il n'y a pas les bonhommes jaunes qu'on a l'habitude d'utiliser à peu près toute la journée.
Il n'y a pas encore les
smileys. C'est déjà les emojis. Ça, c'est vraiment les premiers emojis. Mais c'est plutôt des symboles, c'est plutôt des voitures, des maisons, des télévisions, des choses de la vie quotidienne pour qu'on puisse exprimer les mots en les remplaçant par des images.
Oui, mais nous on dit smiley ou émoticône, emoji, c'est à peu près, ça désigne la même réalité.
Ça vraiment littéralement c'est les emojis parce que les smileys c'était plutôt les choses qu'on faisait avec les caractères, par exemple avec la parenthèse,
ah,
un
oui,
bonhomme
d'accord.
qui sourit, etc.
Donc, alors il a rencontré beaucoup de succès auprès de quelle cible notamment?
Auprès des jeunes qui étaient la cible visée. Donc quand en 2007 Apple lance son premier smartphone qui s'appelle l'iPhone, qui révolutionne le monde, et c'était il y a seulement 11 ans, c'est là qu'on voit que les choses vont très vite. Ils mettent au Japon cette fonctionnalité et qui en fait s'avère être accessible depuis le reste du monde en téléchargeant une petite application en japonais qui craque le système. Et en fait, les Américains, les Européens ont petit à petit commencé à adopter cette façon aussi de parler.
Attendez, pour bien comprendre, pour le marché japonais, il y a je sais pas comment dire, l'application ou le moyen d'utiliser les emojis, c'est
là
planqué,
par défaut.
C'est ça?
Non, pour les Japonais, c'est par défaut. C'est-à-dire que les Japonais ont accès, c'est une option dans le clavier
d'accord,
qui est cachée.
D'accord.
Mais sur un clavier d'iPhone européen, américain, on a la possibilité, en installant juste un petit programme, de débloquer la fonction. Et en fait, c'était peut-être pas la visée première, mais après le marché japonais, c'est devenu le marché mondial tout de suite, puisque c'est devenu redoutablement populaire et une nouvelle nouvelle façon de s'exprimer, adoptée par tous.
Alors, au début, c'est quoi ? C'est un peu l'anarchie, chacun se crée ses symboles, c'est ça ?
Absolument. Au départ, chacun crée ses symboles. Et le problème, quand chacun crée ses symboles, c'est que d'un système d'exploitation à un autre, d'un pays à un autre, ben, on ne reçoit pas le bon symbole, parce que les choses ne sont pas bien codées d'un smartphone à un autre. Et on en arrive donc à notre enquête.
Et le roman d'espionnage qu'on va pouvoir évoquer dans quelques instants.
Le roman d'espionnage,
les gars. Je vous assure, on sera dans James Bond.
Il va
tout nous raconter, Antoine.
À tout de suite
sur RTL.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Je sais pas si je suis en train de vieillir, mais je comprends pas les nouveaux emojis, les nouveaux émoticons.
RTL.
J'ai texté une fille, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux faire demain soir ? Viens, on va boire un verre. » Elle m'a dit « Pas de problème. Danseuse espagnole, deux feux d'artifice, quatre verres de champagne, un singe qui se couvrait le visage, une paire de talons rouges, du vernis à ongles, deux buildings, un taxi et une aubergine. »
La curiosité est un vilain défaut.
Alors on peut dire à Gad Elmaleh que s'il y avait une aubergine à la fin, c'était bon signe. Hein, pour ceux qui parlent en emoji, vous aurez compris, parce qu'il paraît que c'est un signe légèrement... Bon, alors on peut dire ça comme ça. On vous raconte l'histoire des emojis sur RTL dans la curiosité avec Antoine Lanuzel, qui est rédacteur en chef du magazine Oui Demain, vous consacrez en partenariat avec RTL un article sur... l'origine des emojis, déjà, vous nous l'avez raconté, ce japonais Shigetaka Kurita qui les crée pour se distinguer de la concurrence. On est à l'époque des beepers, hein, l'ancêtre des smartphones. Ensuite, il y a une période un peu anarchique où tout le monde crée ses emojis. Et là, on rentre dans le roman d'espionnage avec le consortium Unicode. Qu'est-ce que c'est ? On se croirait dans un film de James Bond. Le Spectre.
Ouais. Statutairement, c'est une association à but non lucratif. Quand on regarde sur Internet, on voit qu'elle est basée dans la Silicon Valley, donc là où se crée la technologie en Californie, vers Palo Alto, et on ne sait rien de plus. Et on a voulu un petit peu creuser à Oui Demain, parce qu'effectivement, ce nouveau langage universel mérite quand même qu'on sache un petit peu
qu'il
fabrique. Et en fait, son rôle précède très largement cette action sur les emojis, c'est-à-dire qu'elle existe depuis le début des années 90, et que son rôle, en gros, c'est de coder n'importe quel signe qu'on s'envoie. Je vous envoie un A, un B, un C, il faut que vous le receviez A, B ou C n'importe où dans le monde. Donc en fait, il y a un code derrière n'importe quelle petite lettre qu'on s'envoie. Ça, donc, c'est hors les emojis. C'est
d'accord.
Son rôle.
Et donc, c'est une association qui regroupe tous les géants d'Internet ?
Alors, c'est une association qui, dans laquelle on rentre en payant. C'est sa spécificité.
D'accord.
Et le plus haut grade dans lequel on peut être dans cette association, c'est en payant 18 000 $ par an. C'est le cas de Adobe, Google, Facebook, IBM, la liste est longue, il y a plusieurs membres.
Ça, c'est sûr que 18 000 $ par an, ils peuvent se le payer.
Institutionnel, il y a le Sultanat d'Oman aussi, c'est un détail peut-être intéressant.
Ouais.
Il y a aussi des universités qui sont peut-être dans une deuxième strate, qui ne sont pas décisionnaires,
qui sont pas
mais plutôt
des
conseils.
Bancs.
Voilà, qui sont plutôt conseils. Et cette association à but non lucratif qui code nos symboles s'est mise aussi, par la force des choses, à coder les emojis qui devenaient un mode de communication courant. C'est-à-dire aller... uniformisés pour que d'un téléphone à un autre on ait la même chose et que les opérateurs ensuite puissent faire leur marché parmi aujourd'hui 3000 emojis qui sont codifiés.
Vous parliez d'un membre un peu étrange, ce pays, le Sultanat d'Oman, on a une idée de ce qu'il vient faire là ?
En fait, c'est le seul acteur de culture arabe, donc on peut imaginer qu'il vient défendre un peu à la manière d'un soft power, qui vient défendre peut-être une vision du monde, peut-être une culture, en tout cas il est là. Et même plus précisément que le Sultanat, c'est la commission ou le ministère aux affaires religieuses. Donc il y a quelque chose de très culturel là-dedans et qui est sans doute... la question de l'influence n'est sans doute pas...
Oui, c'est pas neutre.
Voilà,
mais donc on a, pour bien comprendre, dans ce consortium-là, consortium Unicode, il y a des grandes entreprises, des universités...
Ça, c'est niveau d'en dessous.
Qui sont au niveau d'en dessous, c'est-à-dire que c'est pas elles qui votent. D'ailleurs, on sait pas comment ils votent. C'est-à-dire
que les emojis
rentrent comme des propositions venant plus ou moins de la société civile, parce qu'il y a des choses qui se baladent sur Internet, voilà, on va en parler. Et ensuite, eux, ils font le grand tri, le grand marché, et ils disent ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça peut être plus tard, il faut attendre de voir si c'est davantage adopté.
C'est pour ça que c'est important quand même, c'est important. Alors, Thomas voudrait un émoji jus de concombre, Gauthier Ourcade, le patron des programmes d'RTL, un émoji pelote basque, Coralie Tunier, un émoji poney aquatique. Est-ce qu'on peut tous proposer nos émojis ?
Oui, vous pouvez tous. Alors là, si j'ai utilisé très rapidement ces trois exemples avec les quelques connaissances que j'ai sur le sujet, ça va être compliqué. Notamment la pelote basque, c'est quand même très régional et identitaire. Alors c'est un sport qui peut être pratiqué mondialement.
Ah oui, mais notamment à Miami.
Tout tout ce qui est revendication régionale, ça passe pas. Par exemple, quand les Bretons veulent faire passer le drapeau breton, c'est à chaque fois retoqué. Parce que ça concerne pas le monde entier.
Donc c'est un langage universel, ils ont ce souci.
Voilà,
ce
en tout cas, c'est la prétention, parce que c'est forcément une vision du monde. Ces gens-là, c'est des géants de la tech, c'est plutôt des hommes, ils sont plutôt au-delà de 50 ans. Donc c'est forcément, ils sont plutôt blancs. Donc c'est plutôt une vision, on va dire, américaine et issue de la Silicon Valley. Et donc il y a plein de gens qui vont
se mobiliser face à ça. C'est très intéressant ce que ça veut dire. On en parle tout à l'heure, vous verrez pour votre emoji jus de concombre.
Non, je crois qu'il a été retoqué, là, ça y est.
Non, mais attendez, peut-être que tout n'est pas perdu. À tout de suite, les curieux.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est quoi cet emoji ?
Envoie du mauvais emoji ! Évacuez-le !
RTL.
Thomas Hugues.
Celui-là, il est très simple, il signifie tout simplement « je suis content ».
Anaïs Bouton.
Quand vous avez un smiley comme ça qu'on vous envoie, c'est pour vous pécho.
Les émojis, voilà un monde bien étrange dans lequel nous sommes embarqués aujourd'hui dans votre curiosité avec Antoine Lanuzel qui consacre un article passionnant à l'Académie des émojis dans le magazine Oui Demain. Alors, pour le jus de concombre de Thomas ou le poney aquatique de Coralis, ils veulent le proposer. Quelle est la démarche à suivre ?
Il faut aller sur leur site, donc ça s'appelle Unicode. C'est un site assez basique dans lequel il y a des formulaires et il faut s'inscrire. Alors, moyennant quelques dizaines de dollars pour rentrer dans la toute première strate, c'est-à-dire participer au forum de discussion et donc pouvoir faire des propositions, on peut entrer assez facilement.
Et ça doit respecter quelques critères, les emojis, c'est ça ?
Oui, alors il y a plusieurs critères. Alors ça doit apporter un sens nouveau, donc quelque chose qui n'existait pas dans la base. Par exemple, dans les emojis qui arriveront en 2019, il y a le flamant rose. Bon, il n'y avait pas le flamant rose, c'est
ça,
nouveau.
Ça me manquait, c'est sûr.
Ça doit aussi pouvoir être interprété de plusieurs façons, c'est-à-dire que
l'emoji, il y a un double sens.
Voilà, l'emoji c'est un pictogramme, mais c'est aussi un idéogramme, c'est-à-dire que ça véhicule une idée. Et par exemple, il y a quelque chose qui s'utilise beaucoup en France, en tout cas, c'est, vous savez, ce bras avec le biceps qui est gonflé, ben, c'est un bras. Mais c'est pas pour dire bras qu'on donne cet emoji qu'on le donne.
Évidemment.
Non, c'est pour dire sois fort, force, courage, etc. Voilà, donc là on est sur le double sens. Et évidemment, il faut prouver, dernier critère, que ça répond à une demande des internautes. Et celle-là, elle se vérifie, cette demande. Il suffit de regarder les moteurs de recherche, les mots les plus recherchés, et on s'aperçoit que, le monde entier voulait un emoji flamant rose.
Et KitKat avait été retoqué, c'est ça ?
Ah oui, parce que les marques sont interdites.
Ouais. D'accord.
Mais ils avaient joué sur un truc un peu biaisé en disant pour faire une pause. Donc c'était pour faire, il créait le double sens, il y avait la barre chocolatée, mais évidemment c'était de la pub, donc ça a été refusé.
Bien essayé, donc c'est le consortium Unicode dont on vous parle, qui réunit des grandes entreprises et le sultanat d'Oman, et qui décide de valider ou pas ces émojis. Est-ce qu'il y a parce que bon, on est dans le roman d'espionnage depuis tout à l'heure, et est-ce qu'il y a un sens caché, un but politique derrière ça ? Je ne veux pas être complotiste évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer du modèle de société peut-être que ce consortium promeut ?
Alors notre enquête, malheureusement, je vais vous décevoir, n'a pas révélé une affaire internationale d'espionnage, mais il y a des choses intéressantes.
Oui.
Alors forcément, c'est politique puisque c'est un langage, donc tout langage, toute façon de s'exprimer, cette institution est politique puisqu'elle est composée d'acteurs qui ont des intérêts économiques, politiques. Bon, ça je passe assez rapidement. Ce qui est très intéressant, c'est la façon dont on standardise, la façon dont on utilise ces petits symboles. Parce que dire aux gens, la façon de vous exprimer aujourd'hui, c'est mettre soit un bonhomme qui pleure, soit un bonhomme qui rit, soit un bonhomme qui... En fait, ça laisse la part libre à nos émotions dans le langage écrit, ce qui est nouveau. On pouvait le faire par les mots, mais là, par des petits symboles très simples qui standardisent et simplifient vraiment à l'extrême. Cette émotion est très intéressante à récupérer, notamment pour les géants de la tech, et on y revient, parce que quand on est Facebook et qu'on sait que tel stimuli, tel clip, tel achat suscite chez un consommateur, puisqu'il s'agit de ça, une émotion positive ou négative, c'est de la data en plus sur nous, et la data, on sait que c'est de la valeur.
D'accord, donc ces géants d'Internet qui font partie de ce consortium, ils récupèrent nos emojis. Indirectement, et ils peuvent ensuite finalement revendre des informations.
Ah, mais on peut savoir beaucoup de choses sur vous en analysant juste les emojis que vous utilisez.
Alors il y a aussi les groupes de pression qui essayent de faire pression pour le coup.
Oui.
Alors il y a les transgenres qui pour l'instant utilisent le homard parce qu'il est non-genré, si j'ose dire.
C'est un symbole par défaut, mais qui a du sens.
La salade vegan, la salade, qu'est-ce qui lui est arrivé à la petite salade émoji ?
Alors la salade, elle s'est fait sabrer l'œuf dur. Voilà. Parce
Pourquoi
qu'il fallait, justement, les emojis, c'est toujours cette idée d'essayer d'inclure le plus grand nombre. Et là, on pouvait inclure les véganes en plus avec cette salade en enlevant l'œuf, tout simplement.
Mais on parle de roman d'espionnage parce qu'ils ne communiquent pas beaucoup, les gens de ce non. consortium. C'est très ça, peu. Ça n'a pas été facile de rentrer en contact avec
on
eux.
On a eu du mal, ouais. On ouais. a pu avoir pas mal d'infos en rencontrant le vice-président, mais alors, en face de chez lui, en promenant son chien.
Voilà, oui, parce que vous n'avez pas pu assister au débat.
Il n'y a pas de siège.
Il n'y a pas de siège.
Ils font des réunions des fois chez Apple, des fois ailleurs, enfin chez les uns les autres. Les réunions sont fermées. Mm-hmm. Il y a seuls quelques membres des cercles inférieurs qui peuvent venir. Donc il y a une activiste qui nous a raconté qu'elle a observé une réunion. C'était assez d'ailleurs folklore. On parlait. Donc il fallait faire le emoji haricot et on se demandait si c'était le haricot rouge, le haricot de Lima.
Mais
bah,
il y a un vrai
vert.
Sujet haricot, Thomas. Je crois qu'il faut qu'on le traite dans la curiosité bientôt.
Hein. Ça va très très loin.
Ça c'est sûr. Mais bon, on parle de langage universel, peut-être une sorte de nouvelle espéranto. Est-ce que ça infantilise pas un petit peu les esprits, on va terminer là-dessus.
Si, ça peut infantiliser, enfin, au sens où c'est ludique. C'est ludique. D'ailleurs, il y a eu un film en 2017 qui s'appelle Le monde secret des emojis, donc un film pour enfants.
Sony, ouais.
Et c'est vrai qu'il se prête bien, ces petits personnages. Je ne verrais pas la chose de cette manière-là. Je dirais plutôt que c'est quelque chose de très sérieux, puisque ça vient compléter notre langage et quelque chose qu'on fait depuis quelques années. Et en fait, on est à la préhistoire de cette façon de communiquer, c'est-à-dire en temps réel. Et en temps réel, on ne peut pas utiliser que des mots. On a aussi besoin de dire ce qu'on met derrière les mots, quelle émotion, quelle expression de visage, un clin d'œil, etc.
Merci beaucoup
Antoine Lanuzel d'être passé nous voir dans notre cabinet de curiosité. Je rappelle le titre de votre papier passionnant. Franchement, on a appris vraiment beaucoup de choses. L'Académie des émojis dans le magazine Oui Demain, la revue pour changer d'époque.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.